Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Aucune légende n'est plus vivante que Lynn Renault, qui a chanté en duo avec Elvis Presley et qui l'année prochaine tournera un film sous la direction de Danny Boone. Eh oui, l'année de ses 93 printemps. En fait, elle est de toutes les époques, Lynn Renault. Depuis qu'elle fut la première artiste française à tracer une ligne transatlantique entre la France et l'Amérique, plus précisément entre Armentières et Las Vegas, dont une rue porte son nom. En fait, Lynn Renault est de toutes les époques, de tous les combats, et elle aime être aimée. Son nouveau livre, En toute confidence, qui paraît chez De Noël, regorge de mises au point inattendues. Alors la balade s'annonce vraiment, vraiment intense. Je la vois sourire, mais quel bonheur de vous accueillir, Lynn Renault.
Merci Isabelle, merci.
Europe 1. Je suis émue d'être face à vous. Alors, chère Lynn, En toute confidence, c'est votre 6e autobiographie, la 3e coécrite avec Bernard Stora. En fait, en 7 ans, vous avez rédigé 3 livres de souvenirs avec lui, mais le dernier, celui qui nous réunit aujourd'hui, est différent des précédents. Non seulement vous avez une liberté de ton totalement décomplexée dans vos mises au point, mais vous ouvrez ce livre sur un aveu absolument un bouleversant, touchant, l'aveu d'un pieux mensonge, fait sans doute par peur que ce métier ne vous écarte, ne vous choisisse plus. Ce pieux mensonge concerne en fait ce qui vous est arrivé à 7 heures du matin, le 10 avril 2019.
Oui, ça m'est arrivé à 7h30 du matin. Je ne savais pas ce qui m'arrivait d'ailleurs. J'ai été sauvée par mon chien pirate qui dort avec moi.
Ouais. Oui.
Et puis, donc, je me lève et je ne sors pas de mon lit, je glisse de mon lit. J'essaie de me relever, je n'y arrive pas. Et j'ai les pieds sous le sommier, je ne m'en tire pas. Et là, la personne qui m'aide vient chercher les chiens.
Oui.
Pirate, elle ouvre à peine la porte, il part. Ce jour-là, il reste.
Ça m'intrigue.
Oui. Ce jour-là, il reste dans mon lit et il me regarde. Moi, je suis par terre. Et j'ai compris tout de suite, je ne savais pas que c'était un AVC, mais que j'avais quelque chose de grave qui m'arrivait. Et j'ai dit à Jacinthe, appelez le SAMU.
Mais alors, il faut dire, chère Lynn Renault, que l'année précédente, l'année où vous aviez fêté vos 90 ans, hein, rien que dans les 6 premiers mois de cette année-là, vous aviez tourné un téléfilm, participé à la série 10%, tourné un film pour le cinéma, assuré avec Danny Boone la promo de La Ch'tite Famille et enregistré un méga show pour France 2, Bon Anniversaire Lynn. Et puis les mois qui ont suivi étaient du même acabit. Et en 2019, par exemple, 2 mois avant cet accident, eh bien, Las Vegas, dont je le rappelle, une rue porte votre nom, Las Vegas vous fêtait comme une reine et vous êtes allé rendre visite pour le fun, comme ça, à votre ami Quincy Jones. Donc, vos amis sont les premiers à dire « Mais Lynn, tu en fais trop !» Pourquoi vous ne les écoutez pas?
Parce que je ne sais pas ne pas en faire trop. C'est ma vie, c'est ma façon d'être.
Alors, chère Lynn Renault, votre prochain gâteau d'anniversaire sera celui de vos 93 printemps. Vous avez bien conscience d'être quelqu'un à la vitalité, au charisme et au destin unique. Parfois, vos détracteurs parlent de votre culot, mais ce culot, ces talents, cette certitude que rien n'est impossible, c'est ça qui vous a permis d'écrire votre histoire plus haut et plus longtemps que les autres?
Je pense que oui.
Ouais.
Impossible ne fait pas partie de mon répertoire. Quand vous faites tout pour réussir un challenge et la sauce ne prend pas et que ça s'écrase, ne soyez pas inquiets. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière.
J'adore cet optimiste. Alors, Lynn Renault, puisque vous n'avez pas d'héritier, ce livre, baptisé En toute confidence, nous raconte, dès le premier chapitre, comment vous avez décidé de créer un fonds de dotation pour la recherche médicale qui récompensera chaque année une avancée scientifique majeure. C'est Pierre Berger qui vous a conseillé. En fait, puisque vous n'avez pas de descendance et pas de famille, votre grand domaine de la jonchère, dont une institution héritera, va alimenter ce fonds par sa vente ou sa location. Et ainsi, chaque année, un chercheur, désigné par ses pairs les plus éminents, recevra donc une dotation financière. Donc, dans 50 ans, Lynn Renault, le prix Lynn Renault Loulou-Gastet participera encore à l'avancée de la science.
Oui, je ne serai plus là, mais le prix sera encore là. Et je pense que ce prix sera remis chaque année par une personnalité artistique, bien sûr, parce que ça vient d'une artiste, ça reste pour être donné par un artiste ou une artiste à la science. C'est un prix, pendant que j'étais à l'hôpital, je l'ai créé ce prix. Ça s'appelle le Fonds de dotation Lynn Renault-Loulou-Gastet. Et il existe. Il a existé depuis l'année dernière.
Mais oui.
Quand je suis sortie de l'hôpital après mon problème, le premier prix a été remis à un chercheur qui a trouvé dans l'année une invention nouvelle, quelque chose de fort pour la science. L'année dernière, ça a été remis à un chercheur, Guillaume Canot.
Oui.
Et Guillaume est un garçon qui a travaillé sur une maladie orpheline. Vous savez, les enfants naissent avec une déformation, par exemple, une énorme boule située ou sur le genou ou entre les cuisses, quelque chose de déformant et de très détruisant. L'enfant ne peut pas marcher. Et ça s'appelle la maladie de Clove.
Oui, oui, oui.
Et donc, ce chercheur a trouvé un médicament à prendre tous les jours et l'enfant redevient normal. Alors, quand vous voyez cette petite fille qui était complètement déformée, courir maintenant, danser, c'est extraordinaire. Donc, c'est lui l'année dernière. Et cette année, nous allons remettre en novembre le deuxième prix,
oui,
est remis à une savante de Cochin.
Oui.
Voilà.
Alors, il paraît, Lynn Renault, que ce prix, en fait, vous êtes allée en exposer le projet et le défendre toute seule devant les 32 membres du conseil scientifique.
Oui.
Mais c'est extraordinaire.
Mais attendez, ça, je ne savais pas que ça m'arrivait non plus. Je suis allée à la Fondation pour la recherche médicale, donc j'ai rencontré le président et je dis voilà ce que je veux faire pour la science.
Oui.
Qui est un prix chaque année important.
Avec une dotation financière importante.
Importante, voilà. Et donc, il m'a dit, bien, vous tombez bien aujourd'hui à la réunion de tous les savants. Ils sont 35. Vous allez leur parler vous-même. Vous allez dire ce que vous faites.
Vous n'aviez rien préparé ?
Rien du tout.
Alors, comment êtes-vous rentré dans cette salle ?
J'avais une amie avec moi. Nicole était avec moi et je suis entrée dans cette salle.
Et vous avez pris la parole et vous les avez tous convaincus en une demi-heure.
Alors, ils se sont avérés convaincus puisqu'ils ont choisi ce savant qui a guéri la petite fille. C'est le conseil scientifique qui l'a choisi.
C'est quand même très, très, très impressionnant, chère Lynn Renault. Lynn Renault a mille choses à nous raconter, très, très inattendues. On fait une pause très courte, on la retrouve immédiatement.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Alors, chère Lynn Renault, vous êtes la seule artiste française à avoir créé et maintenu, à travers tant de décennies, un axe transatlantique qui va de Armentières, bourgade du nord de la France, à Las Vegas. Alors, l'histoire, elle commence dans le café tenu par votre grand-mère, où à l'âge de 12 ans, vous chantiez à tue-tête la Madelon. À 16 ans, vous signez votre premier contrat pour Radio-Lille. À 17, vous passez une audition pour les Folies Belleville à Paris et vous rencontrez votre mentor compositeur et futur mari, Loulou Gastet, qui vous fait enregistrer à 18 ans Bacchapado Canada. Triomphe, votre carrière est lancée. Bon, tout ça, c'était il y a 75 ans, mais depuis, vous n'avez jamais, à aucun moment, soufflé. Et votre agenda en 2021, il est donc rempli de projets qu'on va évoquer tout à l'heure, dont, et j'en ai parlé au début de cette conversation, le film tourné avec Danny Boone. Mais le temps qui passe, Lynn Renault, en fait, vous le dominez parce que vous l'ignorez.
Je l'ignore. C'est vrai. C'est exactement le mot qu'il faut employer. Je l'ignore. Quand les gens disent « Oh là là, je ne fête plus mes anniversaires. J'ai 50 ans, je ne fête plus mes anniversaires. » Moi, je les fête, mes anniversaires. Un anniversaire, c'est un bonheur en plus.
Alors, le temps a emporté Piaf, à seulement 47 ans d'ailleurs. Il a emporté Dalida, cet été Zizi Jeanmaire, Annie Cordy, récemment Juliette Gréco. Chacune, à sa façon, est associée à un morceau de puzzle de votre vie. Vous les avez toutes si bien connues, n'est-ce pas ?
Oui, surtout Dalida.
Surtout Dalida.
Oui, surtout Dalida. C'était une grande amie. Annie Cordy aussi était une grande amie. Juliette était une relation, mais je l'admirais beaucoup. Elle avait fait sa place à Saint-Germain-des-Prés. Donc, mais je parle d'Annie. Son décès m'a fait mal. Parce que je lui ai parlé 3 jours avant.
Ah oui ?
Oui, 3 jours avant, au téléphone. Je l'appelle à Cannes. Et je dis à sa nièce, passe-moi Annie. Ça fait des semaines que je ne lui ai pas parlé. J'ai eu Annie au bout du fil. Elle a très bien. On était copines.
Oui, c'est ça. Voilà.
Là, ça a été une surprise. Je ne pensais pas la voir partir si vite. J'ai eu beaucoup de chagrin. Beaucoup, beaucoup de chagrin.
Lynn Renaud, pour être de toutes les époques, il faut être adaptable, n'est-ce pas ? Il faut savoir se réinventer. Alors, vous avouez que lorsque vous avez abandonné le music hall pour devenir comédienne, eh bien, ce fut un saut dans le vide. Vous meniez triomphalement la revue du Casino de Paris et, le 6 novembre 1979, eh bien, vous annoncez sur scène que, voilà, c'est fini à jamais. Loulou Gasté, votre mari producteur, était très, très inquiet, mais alors vous, pas du tout, alors que vous n'aviez aucun projet.
Non. J'avais aucun projet. Simplement, j'avais décidé qu'à 50 ans, on ne mène plus une revue. On ne montre plus ses jambes.
Ouais.
Il y a quelque chose qu'il faut arrêter, donner un tournant à la carrière. Donc, on ne sait pas si ça va marcher.
Bien sûr.
On perd tout. On laisse tout. Les propositions qui viennent pour aller faire un gala à tel endroit, on dit non.
Ouais.
Les propositions à la chanteuse arrivent, même d'aller chanter en Argentine. Et donc, je refusais tout. Et puis, ça, c'est très dur. C'est un moment parce que les frais continuent.
Bien sûr.
Bon, et je n'ai pas une petite maison. On l'a fait doucement avec Loulou, mais sûrement. Et dans la tête, j'en m'avais dit, il faut que je fasse maintenant à 50 ans, car pour me mettre dans un autre mouvement,
oui,
ça me prendra 10 ans.
10 ans.
Et ça a pris 10 ans.
Oui, enfin, ça a pris 10 ans quand même. On vous a très vite fait des propositions. Et la première pièce qu'on vous a proposée, Lynn Renaud, était une pièce de Barry Egredy qui portait l'empreinte de Jacqueline Maillan. C'est Folle Amanda. En fait, à aucun moment, vous n'avez craint la comparaison, n'est-ce pas ? Vous êtes embarqué dans cette aventure avec une énergie et une fraîcheur assez impressionnantes.
Et avec surtout des surprises, des rencontres. Ça, ma vie est faite de beaucoup de ça, de chance. J'avais décidé de partir vers le théâtre.
Ouais.
Et Georges Arbet me téléphone, il me dit « si vous voulez faire du théâtre, il y a une pièce qui doit partir en tournée, c'est Folle Amanda ». Et voilà, je suis partie dans Folle Amanda.
Alors, le soir de la première, à Paris, Michel Morgan et François Perrier étaient assis pile devant le milieu de la scène pour voir, j'ai envie de dire, une débutante célèbre du nom de Lynn Renaud. Vous l'avez vécu comment, ce baptême, Lynn ?
C'était à Versailles, la première. J'avais dit surtout pas une première à Paris.
Ah, d'accord, ouais, à Versailles. Non, mais ils se sont quand même déplacés.
Oui, à Versailles. Et donc, Loulou ne me dit pas du tout qu'il y a dans la salle. D'ailleurs, je ne veux pas savoir qui est dans la salle, jamais. Et là, à la fin du spectacle, je vois Michel Morgan, François Perrier, enfin, quelques grands du théâtre. Et je dis, je fais une tournée. Je veux savoir si c'est passager ou si je suis solide. Donc, j'ai fait la tournée Folle Amanda. J'étais solide, ça marchait bien. Alors j'ai dit oui à Paris, mais dans un petit théâtre.
Mais alors vous avez dit oui à Paris dans un petit théâtre, mais comme ce fut un triomphe et que l'Amérique, c'est votre deuxième pays, bah vous avez décidé de jouer Folle Amanda en anglais aux États-Unis, Lynn Renaud. Et alors je voudrais savoir s'il est vrai que les deux dernières répétitions de la version anglaise, donc ce qu'on appelle les filages, ont eu lieu à Los Angeles devant Mel Brooks, devant Burt Reynolds et devant la sublime Anne Bancroft qui jouait Mrs. Robinson dans Le Lauréat avec Dustin Hoffman et qui ont rivalisé tous les trois de conseil pour comme ça enrichir la pièce. Enfin, c'était absolument incroyable. Vous aviez Hollywood à vos pieds qui vous servait de répétiteur.
C'était une façon de travailler que je ne connaissais pas des Américains. Je répétais ici, j'allais la jouer là-bas avec les auteurs et tout ça. Bon, on corrigeait, je revenais ici la travailler, on corrigeait. Un jour, il m'a dit, on est prêt pour le faire devant un petit parterre. Alors, chez l'auteur dans son appartement avec trois rangs d'amis. Et là, je vois Burt Reynolds, Anne Bancroft,
toutes les stars.
Mel Brooks. Et j'ai toutes ces personnes-là et je dois jouer Folamanda pour la première fois en anglais.
Mais oui, c'est un sacré défi.
Avec des partenaires américains. Et alors donc, j'ai joué devant eux. C'était une répétition pour l'auteur. Tous après sont venus me parler, me féliciter, mais ont eu des réunions dans le bureau d'à côté et disaient à l'auteur, ça, ça marche pas, cette ligne-là, tu dois la changer. C'est un travail sur le texte.
Incroyable. On remaniait le texte au fur et à mesure des répétitions. Voilà. Incroyable. Alors, à la fin de la saison théâtrale en Floride, Charline Renaud, les Américains vous ont attribué le titre de Best Actress, en même temps qu'ils vous ont remis les clés de la ville de Miami. En fait, vous ne faites jamais les choses à moitié. Vous avez les clés de à peu près toutes les grandes villes du monde. Hein.
J'en ai perdu beaucoup. Comme on perd ses clés, j'en ai perdu quelques-unes, oui. Non, mais j'ai de beaux souvenirs, quoi, c'était leur accueil. Alors, surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est des souvenirs qui me reviennent comme ça. On m'avait prévenu, vous savez, Miami est une ville de retraités.
Oui.
Les personnes sont âgées. D'ailleurs, les feux de signalisation changent plus lentement là-bas pour laisser le public avoir le temps de traverser.
Voilà, le temps de réaction, j'ignorais.
Oui, alors il m'avait dit, ne vous inquiétez pas, surtout, parce qu'il faut aller un peu aux toilettes, peut-être. Alors vous allez voir des gens marcher.
Et se lever pendant la représentation.
Je n'ai jamais vu de gens marcher. J'ai vu les gens rester jusqu'au bout. Et donc, j'ai réussi le challenge.
Au-delà de toute espérance, ils vous ont même remis un prix.
Oui, au-delà de toute espérance, oui.
Allez, on continue de se promener cet après-midi en compagnie de Lynn Renaud.
Bonjour, c'est Julien Bugier. On se retrouve dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20.
Le décryptage de l'actualité, les grands enjeux de notre époque, les débats de société, l'économie, l'environnement. 2 heures pour réfléchir, confronter et se faire son opinion. Nous allons ensemble écouter le monde changer.
Europe Soir, présenté par Julien Bugier.
Rendez-vous demain à 18h sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Lynn Renaud, on évoquait à l'instant l'Amérique que vous avez découverte en 1955, un petit peu par contrainte, car Édith Piaf, agacée par votre popularité, avait monté contre vous une cabale dans le métier. Vous avez profité de la proposition de Bob Hope, qui était venu un soir vous voir chanter au Moulin Rouge, pour prendre le large donc et débarquer à New York. En fait, vous avez été la première artiste française, Lynn Renaud, à paraître dans un show de la télévision américaine qui, contrairement à la télé française, était déjà à l'époque en couleur. Parce que Piaf, a fait du cabaret, mais vous, c'était carrément la télé que vous avez conquis.
Oui, le Bob Hope Show faisait 80 millions de téléspectateurs. C'était le show le plus populaire des États-Unis.
80 millions de téléspectateurs.
Et donc, je chantais. Je jouais des sketchs avec Bob et je chantais 2 chansons. Et j'ai fait 5 Bob Hope Shows. Donc, 5 fois 80 millions de téléspectateurs. C'est formidable pour une petite Française.
Incroyable. Des shows
qui étaient arrivées timidement là-bas quand j'ai rencontré Bob Hope pour la première fois aux États-Unis. Oui. Je l'avais vu à Paris.
Oui.
Il était venu me voir au Moulin Rouge. Mais j'étais dans mes petits souliers, vous ne savez pas, toutes ces préparations. Heureusement que Loulou m'avait fait apprendre la danse.
Alors, vous chantiez également des duos comme par exemple avec Dean Martin, crooner absolument divin de l'époque. Enfin, bon, alors, quelques années plus tard, Lynn Renaud, votre nom, tout naturellement, parce qu'il faut se méfier des timides, hein, votre nom s'inscrivait en lettres géantes sur la façade du casino mythique de Las Vegas, The Dunes, et côtoyait donc les noms de Sinatra, d'Ella Fitzgerald, de Louis Armstrong. En fait, vous aviez signé pour 3 mois, votre revue a triomphé à Las Vegas pendant 2 ans. Je veux comprendre, vous leur avez fait quoi, les Américains, pour les hypnotiser ainsi?
J'étais moi-même. J'ai rien changé. Il y a un mot qui n'existe pas ici, que je n'entends pas,
oui,
et que j'entends toujours en Amérique. I love your personality. La personnalité compte beaucoup. Et donc, en plus, vous chantez, vous dansez. Donc, et puis, le petit accent français, ça
c'était
amène quand
pas
même...
pas pour leur déplaire. Alors, la presse américaine avait surnommé votre maison à Vegas l'ambassade de France, c'est ça?
Parce que tous les Français qui venaient à Las Vegas téléphonaient au Dunes Hotel et puis demandaient à joindre Lino Renault. Le Dunes me passait la communication chez moi.
Non.
Et c'était des étudiants qui visitaient l'Amérique et disaient « On est en Amérique, si on était sûr de vous rencontrer, on viendrait bien jusqu'à Vegas ». Alors, je dis, venez à Vegas, vous me rencontrerez.
Mais donc, vous étiez le membre le plus important et éminent du Quai d'Orsay, en fait.
Ça me faisait plaisir, c'était déjà... Je ne sais plus quel... Un bus entier est arrivé de Français à qui j'avais dit oui, mais je ne savais pas que c'était un bus qui venait. Alors, ils ne savaient pas où dormir.
Ils ont dormi chez vous ?
Ce bus, non. Alors, j'ai téléphoné à l'université de Las Vegas. J'ai appelé le directeur de l'université. J'ai dit, il y a 80 Français qui sont arrivés. Ils n'ont aucun endroit pour aller se coucher. Et ils ont couché ces Français à l'université.
Vous étiez un peu le maire de Las Vegas, en fait.
Je ne sais pas ce que j'étais.
La mairesse. Bon, Lynn Renault, Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Gregory Peck, Elvis Presley, tous vous adoraient, mais j'imagine que les femmes et surtout les autres meneuses de revue à Las Vegas, elles faisaient peut-être preuve d'un peu moins d'enthousiasme parce que vous aviez signé pour 2 mois votre revue a triomphé pendant 2 ans. En fait, vous étiez la reine de Vegas.
C'est-à-dire que c'était les contrats que l'on signait. 3 months or the run of the show. 3 mois ou la durée des spectacles. Ils avaient 3 mois pour juger. Alors donc, au bout du premier mois, ils ont renouvelé mon contrat. C'est là où j'ai paniqué, parce que au bout du troisième mois, Loulou est obligée de rentrer à Paris. Et là, vraiment, j'ai paniqué. Moi, je n'avais pas l'habitude d'être seule longtemps. Bon, je ne me suis pas beaucoup plu tout de suite, là. Non, ça n'allait pas bien, mes débuts à Vegas.
Paris vous manquait ?
Non, je ne me plaisais pas. Paris me manquait, tout me manquait. Et puis un jour, c'est la femme l'optimiste qui vous parle là, j'ai balancé tout ça. J'ai dit, où je me réveille, où je me couche tous les soirs en disant, oh mes roses, oh mes fleurs, oh mes amis, où je me réveille, je dis,
et je profite de ce, de ce que la vie m'offre.
Qu'est-ce qu'il y a de bien ici ?
Voilà.
Ben, j'ai changé, j'ai tourné à la clé, et à partir de là, je me suis beaucoup plu.
Alors, avant de faire une courte pause, Lynn Renault, je voudrais savoir si... Vous l'avez revue, votre coiffeuse américaine, qui au tout début de l'aventure, donc votre aventure à Vegas, investissait tous ses petits salaires dans l'achat de minuscules bouts de désert autour donc de Las Vegas et qui finalement est devenue milliardaire parce que peu à peu, elle s'est mise à posséder toutes les terres qu'il fallait lui racheter à prix d'or pour construire des hôtels. Vous l'avez revue ?
Ben, je la vois tout le temps.
C'est pas vrai.
Elle vient chez moi tous les étés.
Extraordinaire. Alors, une rue de Las Vegas porte votre nom, Lynn Renault. Est-ce que vous avez toujours la green card ? Vous l'avez toujours ?
Non, là, c'est, je n'ai plus de green card. Je l'ai eu très longtemps, mais je ne l'ai plus, non.
Oui.
Parce que je pense que, je dis toujours ça, mais je pense que j'ai fait mon dernier voyage à Vegas.
Oh, il faut se méfier avec vous.
Non. je crois que j'ai fait mon dernier voyage à Las Vegas.
On retrouve tout de suite Lynn Renault.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Chère Lynn Renault, j'aimerais savoir s'il est vrai que la première fois que vous avez rencontré Donald Trump, il n'était pas encore président des États-Unis, eh bien Donald Trump s'était incrusté en douce, sans un mot, à vos côtés, sur une photo qui devait immortaliser la soirée d'ouverture d'un palace à Las Vegas, le Paris Hotel, photo qui réunissait Catherine Deneuve, Quincy Jones, Aznavour, Michel Legrand. Bon, quand on a développé le cliché, stupeur, on a découvert que Donald Trump posait en fait tout sourire devant Michel Legrand qu'il avait réussi à écarter. Personne pendant la photo s'en était rendu compte.
Non, non. C'était une photo. Moi, j'avais fait venir pour l'ouverture du Paris, Catherine Deneuve, Aznavour, Quincy Jones, enfin tout ça. Et tout ce monde était là et on n'a pas vu personne. Quand on a regardé la photo, on a dit, qui c'est ce grand type à droite là, sur la photo? C'est surtout Aznavour qui l'a vu en premier.
Ah oui, oui,
parce
oui.
qu'Aznavour était à côté de lui et il trouvait que le type à côté de lui était trop grand.
Alors, il avait écarté Michel Legrand, le fameux grand type.
Et alors donc, Charles, il dit, c'est qui lui? C'était Trump qui s'était glissé sur notre photo.
Il savait déjà y faire. Hein. Bon, Lynn Renault, la construction du Paris Hotel à Las Vegas, elle a pris 2 ans de votre vie car c'est vous qui avez mené à bien, en fait, tous les contrats qui ont permis d'édifier autour donc, de cet hôtel une tour Eiffel de 165 mètres de haut, parfaite réplique de la vraie, même si un petit peu moins haute, et puis la construction de la réplique de l'Opéra de Paris, du Louvre, de l'Arc de Triomphe. En fait, pendant 2 ans et à plein temps, vous avez fait le go-between entre la ville de Paris et Las Vegas pour décrocher tous ces accords, tous ces contrats, mais c'est phénoménal.
Je ne sais pas comment vous dire, ça ne m'a pas semblé phénoménal. Quand vous en parlez, ça me semble phénoménal. Mais quand je le faisais, je ne me rendais pas compte. Non, j'ai réuni d'abord la ville de Paris, et puis Tibéri. J'ai expliqué ce qui se passait à Vegas, que pour la première fois, ils feraient un hôtel qui s'appellerait Paris. Donc ça leur a souri. J'ai dit aux Américains, venez en France. Et puis on a fait une réception pour la presse, justement, avec les maquettes de l'hôtel Paris.
Oui.
Tout est parti comme ça, mais il fallait construire l'hôtel.
Et puis, il y avait pas mal d'accords, en fait, à imaginer. Par exemple, c'est vous, Lynn Renault, qui avez fait stipuler par contrat que la tour Eiffel de Las Vegas ne serait supporte d'aucune publicité et que l'illumination serait reproduite à l'identique. En fait, vous avez tout contrôlé.
Et vous savez, j'ai dit, il faut que la beauté de la tour Eiffel Paris soit respectée. Et donc, on a cherché le nom du monsieur, c'est un Normand qui a fait toutes les nouvelles les lumières de la tour Eiffel. Et je les ai mis en contact avec les propriétaires du... Et voilà, c'est mettre les gens en contact.
Oui, mais enfin, c'est mettre les gens en contact. Vous avez été notre ministre de la Culture aux États-Unis sans que les Français le sachent. Mais vous l'étiez bel et bien. Alors, par exemple, ces galeries marchandes qui proposent aux millions de touristes à Las Vegas de déguster des croissants français, ben, c'est aussi à vous qu'on le doit.
Et oui, j'ai convaincu Gaston Lenôtre de mettre une boutique Gaston Lenôtre, ce qu'il a fait. Et il y en a eu d'autres. Encore, il y a un Paris Lynn.
Oui.
Puis il y en a d'autres, il y en a d'autres.
Incroyable. Et ce qui est faramineux, cher Lynn Renault, c'est que pour l'inauguration de la Tour Eiffel, donc je rappelle de quand même 165 mètres de haut, c'est pas anodin, Tour Eiffel à Las Vegas, vous aviez obtenu, en bataillant, mais vous êtes modeste, alors vous ne le dites pas, vous aviez obtenu que la vraie Tour Eiffel à Paris reste allumée malgré le décalage horaire de 9 heures, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la Tour Eiffel de Vegas s'illumine un peu comme un passage de relais. Donc vous êtes une femme d'affaires, vous êtes une femme de relations publiques absolument hors pair. Ça vous a amusé de faire tout ça?
Écoutez, quand vous me le racontez, ça me semble incroyable. Mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé. L'idée vient. Je dis par exemple, oh, ce serait génial lorsqu'on ouvre la Tour Eiffel à Las Vegas que celle de Paris se ferme.
Voilà.
J'ai appelé un Bernard qui s'occupait de la direction de la Tour Eiffel. Et puis après, j'ai dit, ça serait merveilleux d'avoir un Eiffel, quelqu'un de la famille Eiffel. Est-ce qu'il en existe encore un? Il y avait un arrière-petit-fils.
Oui.
Je l'ai appelé. Ça l'a beaucoup amusé. Alors, c'était lui qui était en bas de la Tour Eiffel à Paris.
Oui.
Et Catherine Deneuve était à côté de moi à Las Vegas.
Au même moment.
Alors, lui fermait la lumière à Paris et Catherine levait pour allumer la Tour Eiffel à Vegas.
Non, c'est hallucinant, chère Lynn Renault. Alors, normal qu'on vous ait faite citoyenne d'honneur du Nevada où se trouve Las Vegas. Mais alors, votre contribution à Vegas, elle a commencé bien plus tôt. Parce que, et ça, on l'apprend donc dans ce livre qui paraît chez De Noël en toute confidence et qui regorge de souvenirs plus savoureux les uns que les autres. Le mythique et colossal César Palace est sorti de terre en 1966. En fait, façonné par vos avis, vos conseils et votre goût, puisque vous étiez devenu l'ami et je peux le dire, l'amoureuse de Nat Jacobson, puisque vous le révélez dans ses pages. Et Nat Jacobson, en fait, menait les débats pour construire le César Palace. Il menait les débats en affrontant Jimmy Hoffa, le redoutable patron du syndicat des camionneurs, lié à la mafia, qui investissait donc une fortune dans cette opération de construction. Et je rappelle que Jimmy Hoffa, on dit qu'il a participé à la conspiration pour l'assassinat du président Kennedy, puis de son frère. Donc, on découvre dans ce livre, en toute confidence, on découvre une vie digne d'un polar follement romanesque. C'est absolument prodigieux.
Oui. Et c'est-à-dire que tout Las Vegas, d'ailleurs, fonctionne sur le même principe. Avant, c'était la mafia. Mais 66, le César Palace a tout changé. Ouais. Nat Jacobson n'était pas dans la mafia.
Ah, et il l'a payé cher. Il a dit qu'il l'affrontait, justement. Il l'affrontait, la mafia.
Il l'a payé cher.
Il l'a payé cher.
Oui. Il a payé un cabinet d'assurance à Baltimore.
Oui.
Et donc, il a réuni beaucoup d'argent de ses copains de Baltimore. Et comme ça, ils l'ont laissé construire.
Et après,
comme président,
ouais,
ils
après,
l'ont
ils
laissé
se sont
construire
vengés.
Le César Palace. Et le premier soir de l'ouverture du César Palace, à un moment, Nat se promène et il entre dans un quartier de jeu qui s'appelle le Pit. Et Nat, les mains dans les poches, entre et regarde les joueurs. Et moi, j'étais là, je regardais les joueurs aussi. Une main énorme se pose sur son épaule. On connaissait le type, il s'appelait H. Resnick. Et alors, il lui dit « Out, get out ».
Non.
Oui, get out.
Sortez.
Alors, Nat dit « I am the president ». Je suis le président. Et l'autre lui répond « Not in the pit ». Pas dans le pit. Et donc là,
le soir de l'inauguration.
Le soir de l'ouverture des élections. Il a appelé ses partenaires et il a dit, quand il est redescendu, il m'a dit, j'ai quitté le César Palace ce soir.
Mon Dieu.
Oui, mais en réalité, il a tenu 2 ans et ils ont vendu le César Palace et lui, il est parti. Lui, il ne faisait pas.
Mais bien sûr, on entend bien qu'il faisait absolument pas partie de la mafia, qu'il a dû affronter. Oui. Mais derrière les paillettes, donc, derrière les shows, derrière les coupes de champagne, il y avait tous ces dangers.
Oui, il y avait le film Casino.
Oui, c'est ça.
C'était ça, Vegas.
Exactement, de Scorsese.
Il y avait ça.
Casino.
C'était ça, Vegas.
Avec De Niro, voilà.
Et puis, il y avait ces artistes noirs, Sammy Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, pouvaient chanter, remplissaient les salles, n'allaient pas du tout dans les coulisses.
Non.
Ils ne dormaient pas à l'hôtel, là, ils dormaient downtown.
Ils étaient en haut de l'affiche, mais ils n'avaient pas le droit de dormir dans l'hôtel.
Non. Jusqu'en 64, j'étais là quand j'ai vu le premier noir entrer dans la salle de spectacle. Et le deuxième qui soit entré, c'est moi qui l'ai fait entrer, c'est Sammy Davis.
Extraordinaire. Sammy Davis Jr. du Rat Pack avec Sinatra. Bon, on vit des moments vraiment exceptionnels grâce à Lynn Renaud cet après-midi. On fait une pause très courte, on la retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Son destin est exceptionnel. Sa dernière biographie aussi, qui paraît chez De Noël, et a pour titre « En toute confidence ». Je reçois cet après-midi Lynn Renaud. Alors, chère Lynn Renaud, Vincent Auriol, René Coty, le général de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Ben voilà, les présidents de la République se succèdent. Les époques passent, vous êtes toujours là. Et dans ce livre, vous livrez vraiment des souvenirs très, très savoureux sur chacun des présidents, sauf sur De Gaulle, qui a juste droit, alors vraiment à une phrase très très courte, vous dites « Passons De Gaulle, parenthèse titanesque ». Pourquoi dites-vous « Passons De Gaulle » ?
J'écris « Passons De Gaulle » parce que je suis passé à côté de De Gaulle.
C'est pour
Écoutez,
cette raison.
Je vais vous dire, c'était facile pour moi de rencontrer De Gaulle.
Bah,
on était en 50, c'était, la carrière était déjà là. Pierre Lazareff était mon grand ami.
Oui.
Il dirigeait François. C'était le groupe François, Pierre et Hélène Lazareff. Il me suffisait de dire à Pierre, je voudrais bien rencontrer le général De Gaulle. Pierre m'aurait dit, mais viens, viens dans le bureau, on va le rencontrer.
Alors pourquoi n'avez-vous pas osé le dire ?
De Gaulle, pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable. On ne touche pas. C'était ça. Et c'était bête parce que c'est l'homme que j'aurais le plus de ma vie voulu rencontrer. Mmh. Voilà.
Charline, en 2028, vous fêterez vos 100 ans. Bon, d'ici là, bah, vous pouvez connaître encore deux autres présidents, hein, en 2022 et en 2027.
On va voir.
Alors, parlons cinéma, Line Renaud. En fait, j'ai le sentiment que la télévision vous a peut-être davantage gâtée comme comédienne que le cinéma ne l'a fait. Parce que vous avez eu des rôles absolument sublimes à la télé. On va citer Suzy Berton. D'ailleurs, c'est Bernard Stora qui a coécrit cette biographie avec vous et qui vous a dirigé pour Suzy Berton, qui était un triomphe d'audience à la télé et puis grand succès critique. Vous avez interprété La Femme Tranquille, Huguette. Vous avez joué Mado, La Résistance, dans Rappelle-toi. Mais pourquoi le cinéma ne vous a pas offert des rôles de cette trempe ?
Ben, faut le demander au cinéma. Pas moi. Non, moi, je vais vous expliquer.
Dites-nous.
Il y a des compartiments. Ouais. Ici, chez nous.
Oui.
Pas chez les anglo-saxons. Judi Dench, vous la voyez dans les films.
Oui.
Vous la voyez à la télévision.
Oui.
Maggie Smith aussi, en Angleterre. Bon, ici, compartimenté. Mais je ne me plains pas du tout.
Ah non, parce que vous régnez chaque fois sur la télé.
Ça ne m'a jamais... Ça m'a pas ennuyé, ça. Non, ça ne m'a pas ennuyé. Ça ne m'a même pas donné d'aigreur. J'ai aucune aigreur. Et ça, c'est bien.
Line Renaud, avec la petite famille, Danny Boone, en fait,
il s'est rattrapé.
N'est-ce pas parce
il
qu'il
m'a
vous
a donné 27 millions de spectateurs.
Voilà,
la
déjà.
La petite famille.
Voilà, on va dire 21 millions avec le premier, n'est-ce pas, les ch'tis. Et
27 millions avec le premier.
Voilà, il vous a offert votre premier rôle au cinéma, ensuite avec la suite des ch'tis. Donc, un film qui a fait près de 6 millions d'entrées. Et Danny Boone, justement, vous allez le retrouver l'année prochaine pour un nouveau tournage ?
Oui, oui. Ça, c'est encore une histoire incroyable. Normalement, j'ai un metteur en scène qui s'appelle Christian Carillon, qui a fait Joyeux Noël, et puis Nirontel ne fait pas le printemps, je crois, un grand metteur en scène.
Oui.
Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai lu un sujet, c'est toi, je vais le faire avec toi, et c'est un grand film. Bon, donc là, il faut le temps qu'il cherche son financement. Il y a le Covid par-dessus. Le financement vient pas. Et je ne sais pas comment, il envoie le sujet du film à lire à Danny Boone.
Oui.
En demandant à Danny s'il veut bien produire.
Oui.
Danny téléphone à moi et il me dit « Mais je ne laisse pas passer ce film. Je veux faire ce rôle. » Je veux faire le rôle.
C'est extraordinaire.
Je ferai le rôle et je coproduirai. Et voilà, j'ai pas bougé là. J'ai rien fait là.
Line Renaud, quelle hygiène de vie, quelle discipline vous imposez pour affronter à 93 ans des défis pareils ? Parce que, bon, de temps en temps, je sais que vous appréciez une petite coupe de champagne. En fait, vous êtes une épicurienne. Vous imposez une discipline de vie stricte ou pas vraiment ? Non.
Pas vraiment. Ah non.
En fait, c'est votre nature et c'est votre joie de vivre.
Je trouve que les gens qui s'imposent des disciplines sont tristes.
Alors, oublions les disciplines. Bon, jouer au théâtre, c'est un exercice jubilatoire, mais assez épuisant, un exercice qu'il faut réitérer tous les soirs avec la même énergie. Vous allez refaire du théâtre ou pas, Line Renaud ?
J'aimerais.
Ouais ?
Oui. J'aimerais. On m'écrit un sujet, là.
Ah ! On peut en savoir un tout petit peu plus ?
Et ça sera deux personnages.
Oui.
Ça sera une garde à vue. C'est un petit peu une Suzy Berton.
Une Suzy Berton, voilà, qu'on va voir sur une scène de théâtre.
Ouais.
Bon, alors on a hâte. On fait une pause. On se retrouve tout de suite avec Léna Radon.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Lynn Renaud, on évoquait à l'instant tous les présidents de la République que vous avez vus passer depuis Vincent Auriol, mais en ce qui concerne les stars, c'est pas mal non plus. Hein. C'est Joséphine Baker qui vous a appris à descendre en meneuse de revue tout en panaché de plumes, un grand escalier en fixant le public. Vous avez connu Marlène Dietrich. Marlène Dietrich qui, dans sa loge, nous racontez-vous donc dans ce dernier livre qui a pour titre « En toute confidence », Marlène, après chaque spectacle, recousait elle-même les paillettes tombées de sa robe. Ça, ça vous impressionnait beaucoup. Et puis alors, à des années-lumière de ces scènes-là, vous nous racontez donc votre rencontre avec Michael Jackson, qui n'avait que 11 ans, n'est-ce pas, lorsque vous l'avez aperçu la première fois. C'était à Las Vegas, où il se venait le chanter.
Oui, je crois que c'était au César. Je crois, oui. Au César Palace, c'était les Jackson 5. Oui, donc quand il était petit.
Tout petit, mais alors, on racontait, je ne sais pas quel était votre sentiment là-dessus, à Vegas, on racontait que, en fait, le père de Michael Jackson le forçait à prendre des substances censées ralentir sa croissance pour lui donner le plus longtemps possible l'apparence d'un enfant. C'est
on
ça
racontait beaucoup ça. C'était, tout le monde disait que les parents donnaient pour stopper la croissance. Et donc, ben, il a grandi quand même.
Il a grandi quand même. Vous l'avez, en fait, on va dire, fréquenté Michael pendant pratiquement toute sa vie, n'est-ce pas?
Non, mais j'ai connu Michael Jackson chez les Peck.
Grégory Peck.
Chez les Peck. Il avait beaucoup de respect pour les anciennes artistes. Il adorait Elizabeth Taylor. Et il était subjugué par ces artistes gigantesques, les grandes vedettes du cinéma. Et donc, il était fasciné par Grégory Peck. Et il y a de quoi l'être, vraiment.
Et puis, vous avez très bien connu Elvis Presley. Elvis, voilà, sûr, avec qui vous avez d'ailleurs chanté dans des duos fameux, dans des shows pour la télé américaine. Et Elvis, dont vous dites qu'il était dans la vie un garçon incroyablement mélancolique.
Il était tellement bien élevé, Presley, et très timide. Non. Très timide, oui. Très respectueux. Et voilà comment je l'ai connu. Et quand il était dans ma loge au Casino de Paris, il avait 21 ans. Il faisait son service militaire.
Parce qu'il était venu vous voir, effectivement, à l'époque, vous étiez meneuse de revue.
Il faisait son service militaire en Allemagne. Il est venu au Casino de Paris. Il est venu dans ma loge avec ses copains là, qui faisaient son service militaire. Ils m'ont fait un concert de gospel incroyable avec le Golden Gate Quartet qui était dans mon spectacle. Oui. J'ai eu le plus beau concert d'Elvis Presley.
Privé.
jusqu'à 6h du matin.
Non.
On est sorti dehors de la loge du Casino de Paris. Il était 6h du matin.
Il faisait jour.
Mais il faisait jour.
Voilà. Oui. Alors, Lynn Renaud, tout le show business est venu chez vous, à la Jonchère, dîner ou déjeuner. Mais avec Mylène Farmer, ce fut un moment particulier car après avoir fait le Stade de France en 2009, eh bien Mylène est venue en tête à tête dîner avec vous, sur vos terres donc. Alors je vais être très indiscrète, mais lorsque Lynn Renaud et Mylène Farmer dînent en tête à tête, autour de quoi se tissent les conversations?
Et comment savez-vous que Mylène Farmer parce est venue?
Parce que je suis une petite souris qui sait pas mal de choses.
Mylène va croire que c'est moi qui vous ai raconté ça.
Mais non.
Parce qu'elle n'aime pas ça.
Mais elle a beaucoup d'admiration pour vous.
Elle est venue chez moi. On a dîné toutes les deux sur la terrasse. Nous avons des conversations de femmes. Et aussi du changement dans la vie d'artiste. Les artistes, c'était quand nous chantions les micros de l'époque, la sonorisation de l'époque, et on chantait quand même devant 30 000 personnes, ou 20 000, ou 10 000 dans les tournées d'été.
Mais oui.
Je me demande comment on faisait d'ailleurs.
Bon, chère Lynn Renaud, vous dites, s'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de vie. Alors, vous n'avez pas eu de descendance. Ce manque, très heureusement, il a été comblé par des amitiés absolument prodigieuses, comme avec Muriel Robin et Claude Chirac, que vous appelez mes filles de cœur. Mais pardonnez-moi cette question, mais y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous auriez aimé farouchement être maman ?
Oh là, ça m'a duré longtemps. Et puis, ça m'a duré jusqu'à 70 ans. Il était temps que ça s'arrête. Et là, j'ai vu suffisamment d'amis avoir des problèmes avec leurs enfants. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est très bien comme ça. Alors, depuis 70 ans, je me dis, j'ai pas eu d'enfants. Annie disait la même chose, on n'en a pas eu, on
n'en
a pas eu.
Mais vous avez eu le public, tous les publics, vous avez tant voyagé autour du monde.
Voilà, donc on n'a pas eu d'enfants.
Vous dites à la fin de cette autobiographie, baptisée en toute confidence, Lynn, vous dites, mes affaires sont en ordre. Le fonds de dotation Lynn Renault-Loulou Gasté pour la recherche médicale est sur les rails. D'ailleurs, en novembre, on va donc remettre le deuxième prix Lynn Renault-Loulou Gasté. Tant qu'on aura besoin de moi pour le combat contre le sida, je combattrai. Tout ça, c'est très sage, mais vous n'êtes pas quelqu'un de sage, Lynn Renault. À quoi rêvez-vous encore ? Dites-nous. Je suis sûre que vous avez 1000 projets en tête.
Une première fois. Je vais l'avoir un jour, la première fois.
Je peux vous demander une faveur, chère Lynn.
Oui.
Je suis très sérieuse. Vous me promettez de m'accorder votre première interview le jour de vos 100 ans.
Vous l'avez.
Je vous embrasse. Fort, fort, fort,
merci,
fort, fort.
Merci, merci. Merci, ma chérie.